Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes bouleversent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, oui, juste un peu à droite, là, le chaos reprend sa source dans Big Bang Station, le mercredi, sur IDFM Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Le vintage, c'est l'élégance du passé dans le présent. C'est le slogan de cette émission. Nous sommes sur IDFM Radio tous les mercredis jusqu'à 22h sur les...
98 FM, faut le savoir, on vous le dit, on vous tient au courant.
Mais où?
Eh ben sur différentes radios.
Non,
en Île-de-France. France, voilà, tout simplement.
Et en DAB+, et sur Facebook, Instagram, X. Internet, Android, encore Spotify.
Voilà.
Le podcast, Radio Public, oui. Au choix. Allez. Alors. Sur notre page, notre compte, notre site, notre appli, Big Bang
Station.
Ah, c'est bien.
Voilà.
Big Bang Station, c'est depuis 28 ans un thème d'actualité sur lequel les chroniqueurs histoire juridique, bien-être, musique, culture pop collent le plus possible. Donc histoire Petit Manu, juridique Marie-Christine, bien-être Ponari, musique
Kevin,
culture pop
Eric.
Aujourd'hui, nous parlerons de
vintage.
Petit Manu nous éclairera sur les origines du vintage.
Exactement.
Ça vient d'où?
Et je vous en parlerai, et j'ai bien aimé la présentation rapide, originale de Pierre Didier, pour connaître.
La prochaine fois, c'est toi qui l'as fait.
Oh non, chacun son rôle. Oh, je veux bien intervenir, mais chacun sa responsabilité.
Le vintage, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut appeler le vintage? Marie-Christine nous parlera réglementation du terme vintage.
Et oui, sachez que le vintage, ce n'est pas simplement une esthétique ou une tendance de consommation. Ça concerne plusieurs domaines, je vous dirai les règles.
Et nous aurons le fondateur du salon du vintage, Laurent Journeau, au téléphone. Pourquoi certains objets nous touchent-ils autant? Ponari nous parlera de l'âme des objets.
Salut Didier, salut à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un univers où les objets ne sont pas seulement des choses que l'on possède, mais parfois des témoins silencieux de vie, d'émotions et de souvenirs. Pourquoi certains objets anciens nous touchent-ils autant? Ensemble, explorons le pouvoir du vintage. Les objets ont-ils une âme? A tout de suite.
Et pour notre page culture, Kevin nous proposera un quiz des plus grandes chansons vintage.
Tout à fait, salut Didier, salut à toutes et à tous. Et pour cette spéciale vintage, je vous propose une remontée, une plongée dans les années 50, voire même 40, avec des chansons qu'écoutaient vos parents ou vos grands-parents.
Eh ben, on était prêts à ce moment-là.
Eric a choisi de nous parler d'objets pop vintage, le Walkman.
Ah !
Salut Didier, salut à tous. Et oui, aujourd'hui, je vous sors de mon grenier un objet vintage. Pas n'importe lequel, celui du Walkman qui va faire résonner la pop chronique.
Et nous aurons dans nos studios les vintage people. Bonjour Frédéric Strouk, Pascal Rocher et Olivier Denizet.
Bonjour Didier. Ravi d'être accueilli par vous.
Et l'émission
qui présente.
Voilà, notre cher ami Didier qui résume. Et là, il a fait un résumé original. Mais mission casse-cou, mais c'est
une mission casse-cou.
Ah non, mais je veux dire que tu.
Non, mission casse-cou pour t'envoyer la chronique. Parce que...
Non, mais pour bien faire le résumé avec originalité. Hein, voilà, l'art et la matière. Et eh ben, c'est grâce à toi, Didier. On est de tout cœur avec toi.
Merci. Le vintage n'a jamais autant séduit. En France, ce marché représente désormais plusieurs milliards d'euros et près d'un Français sur deux achète régulièrement des produits vintage. Dans le textile, le marché pèse environ 7 à 9 milliards d'euros en France et en Europe. Il dépasse les 20 milliards d'euros. À l'origine, le vintage n'a rien à voir avec la mode. Mais alors, quelle est son histoire? Retour sur les origines du vintage avec Petit Manu.
Je vous explique tout de suite ce que c'est.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, Monsieur Barack Obama, Donald Trump, Hillary Clinton, David Bouillet, Joe Cocker, Justin Timberlake, Lady Dada, Shakira, oui, Kendrick.
Retrouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les ravotas. Non.
Tous les quoi?
Alors, le vintage. Le mot vintage vient du vocabulaire du vin. En anglais, vintage désigne d'abord un grand cru ou une grande récolte exceptionnelle.
Ah, et ça oui. Fallait le savoir, comme tu nous dis souvent.
Exactement.
Bah maintenant, vous le savez.
Voilà, vous savez. On apprend à tout moment, petit ou grand, il n'y a pas d'âge pour apprendre.
Et moyen aussi, ça marche.
Oh, oui, moyen, évidemment. en y pensant sans pour autant oublier. Le terme dérive de vieux français vendange. Ah, les vendanges qu'on fait pendant les vacances.
Ben, ça vient de là.
Et ben voilà. Ah, décidément, peu à peu, le mot change de sens. Il se décrit plus seulement un bon millésime, mais un objet ancien considéré comme remarquable par sa qualité ou son style. Le phénomène apparaît vraiment dans les années... ça date à 1960-1970, par rapport aux chansons de Vagin Chanté et Kimi. Enfin,
elles sont encore plus anciennes.
Voilà, plus anciennes. Et ben, c'est,
donc Kevin quoi, chante pas.
Non, mais les chansons qu'il va proposer, ça se regroupe. À cette époque, une partie de la jeunesse rejette la société, la consommation moderne. On fouille les friperies, les marchés aux opus, les vêtements militaires ou les anciennes robes de décennies passées. Ben, à l'époque, porter de l'ancien devient une manière d'affirmer une identité différente. Dans les années 1980, le vintage touche aussi à la décoration et le design. Dans les meubles des années 1950-1960, que nous parlait tout à l'heure Kevin, reviennent à la mode. Les objets industriels, les vieux néons, les affiches publicitaires ou le tourne-disque retrouvent de la valeur. Ce qui était considéré dépassé devient soudain indésirable. Puis Internet accélère le phénomène et les plateformes. Ah, ça commence à venir. De revente et les réseaux sociaux transforment le vintage en véritable marché mondial. De certaines pièces deviennent même des objets de collection. Un vieux blouson, une console de jeu ou un sac oublié peuvent désormais valoir plusieurs millions d'euros. Mais le succès du vintage raconte aussi autre chose, une forme de nostalgie. Dans un monde plus rapide et numérique, beaucoup recherchent des objets qui semblent avoir une histoire, une durée de vie, une authenticité. Ah bah justement, on arrive à en parler mieux que moi parfois.
Alors,
et on va l'écouter, son charisme naturel, spontané, voilà, on attend tout ça, on attend tout ça avec une grande impatience. Le vintage s'inscrit comme une logique écologique, acheter d'occasion, réparer, réutiliser, dernière, la tendance esthétique se cache parfois une critique sur la surconsommation de la mode jetable. Attention cependant, tout objet ancien n'est pas forcément vintage.
Non.
En général, le thème désigne pièce datant d'environ 20 ans à peu près 100 ans. Au-delà, on parle plutôt d'authenticité. Marc-Christine fera le point sur la réglementation du terme vintage.
Tu replaces Didier.
Non, oh non, mais je suis au courant, voilà. Tout ce qu'on peut savoir sur le mot vintage de A à Z, je pense, je vous ai fait un petit résumé et vous saurez un peu plus. C'est pour toutes les personnes qui ne savaient pas, et ben ils vont pouvoir apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, moi je t'ai dit.
Merci petit Manu. Aujourd'hui, le mot vintage est partout, vêtements, meubles, affiches, voitures, appareils photo. Mais oui. Que peut-on appeler vintage? Retour sur le cadre juridique de l'utilisation du mot vintage avec Marie-Christine.
Loi, réglementation, Marie-Christine vous dit tout.
Et puis, ce qu'il faut savoir, ce qu'il ne faut pas faire, oh là là, entre nos connaissances et la réalité.
Vous êtes-vous demandé quels codes garantissent la qualité et la sécurité de ces délits incontournables? Eh bien, accrochez-vous, car nous allons explorer ensemble les règles, la réglementation.
On écoute toujours Marie-Christine avec la plus grande attention. Oh là là! L'expérience de la vie, la maturité.
Alors, comme je vous disais, le vintage n'est pas seulement une esthétique ou une tendance de consommation. C'est aussi un objet juridique complexe, à la croisée du droit de propriété intellectuelle, du droit de consommation et du droit de commerce. Derrière la veste en cuir des années 80 ou le sac de luxe d'occasion se cache un ensemble de règles souvent méconnues mais essentielles. Alors, le vintage est l'épuisement des droits. Vendre sans autorisation du créateur. En droit européen, le principe clé est celui de l'épuisement du droit de marque. Une fois qu'un produit a été mis sur le marché avec l'accord du titulaire de la marque, celui-ci ne peut plus contrôler sa revente au sein de l'espace économique européen. Désolé pour Monsieur Louis Vuitton qui...
Ah, peu importe, oui, une personne sort.
Ou le fameux sac Birkin, Jane Birkin.
Ah oui.
Concrètement, cela signifie que un sac de luxe authentique peut être vendu librement. Une boutique vintage n'a pas besoin d'autorisation de la marque d'origine. La revente est légale tant que le produit est authentique. Mais attention, vous n'avez pas le droit de modifier le produit. Alors, deuxièmement, l'authenticité et la contrefaçon, la forme juridique centrale. Vendre un produit faux sous une marque connue est une infraction civile et pénale. Les plateformes et les revendeurs professionnels ont une obligation de vigilance renforcée. Donc sachez que sur le Bon Coin, si c'est revendu, vous aurez un produit vrai. Ensuite, le droit d'auteur, un angle souvent oublié. Certains objets du vintage peuvent être protégés aussi par le droit d'auteur, le design, la création artistique et les motifs textiles. Pour rappel, les droits d'auteur expirent 70 ans après la mort de l'auteur, mais certaines créations du XXe siècle restent encore protégées. La reproduction ou l'adaptation peut être encore encadrée.
Moi, ça rassure parce que c'est vrai que quand on voit ça, les choses, heureusement tu dis les bonnes, ce qu'il faut, parce que des fois, on pourrait penser qu'il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent arnaquer. Et tu nous résumes, justement, ça fait du bien d'entendre ce qu'il faut vraiment. On ne peut pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc c'est,
tu ne peux pas faire une fausse Harley
Davidson. Voilà, il y a des gens qui sont peut-être
des fausses Jaguars.
Tu vois ce que je veux dire, Didier? Donc ce que tu dis, c'est, ça rassure et on en sait un peu plus, quoi.
Alors, sachez que le vintage n'est pas un espace juridique vide, c'est un marché encadré, structuré et parfois sous tension. Entre liberté de revente, protection des marques et lutte contre la contrefaçon, le droit tente de survivre une économie fondée sur la seconde vie des objets. Derrière l'authentique rétro, il y a donc une réalité juridique très actuelle, celle d'un droit qui doit composer avec la circulation permanente des biens et la valorisation de l'ancien dans une économie moderne.
Eh bien merci Marie-Christine. Le succès du vintage se voit aussi dans les chiffres des salons organisés partout en France. Le marché ne se limite plus aux friperies. Il est devenu un véritable phénomène événementiel. À Lyon, le marché de la mode vintage créé en 2001 attire autour de 40 000 visiteurs par an et se présente comme l'un des principaux événements vintage en Europe. À Annecy se trouve l'un des plus grands salons vintage de France qui accueille chaque année près de 10 000 visiteurs autour de la mode rétro, du design et des véhicules anciens. Le Salon du Vintage organise désormais des événements dans une dizaine de villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes ou Toulouse. Et nous avons son fondateur, Laurent Journeau, au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi le vintage attire autant de monde aujourd'hui?
Parce que moi je pense que les gens ont assez d'ouvrir leur placard et d'y trouver les mêmes choses que chez le voisin. Et c'est vrai que le vintage, c'est l'antidote et l'uniformité. Aujourd'hui, si on vient chercher des pièces qui ont une histoire, une vraie matière, une coupe, c'est ce qu'on va trouver au Salon du Vintage. Et c'est des objets qui sont faits pour durer, pour même durer 50 ans, puisque des pièces qui sont datées des années 70 sont aujourd'hui 50 ans. Et c'est exactement la promesse du salon du vintage. Voilà ce que ne peut pas promettre la fast fashion aujourd'hui, la durabilité. Donc les gens cherchent du sens, la rareté et un peu d'âme.
Et vous observez depuis quand cet engouement? Alors, c'est vrai qu'il y a un engouement pour la seconde main, les objets rétro, c'est pas tout à fait la même chose que les objets vintage, mais en ce qui concerne ces objets-là, c'est vrai qu'il y a quand même un engouement depuis pas mal d'années.
C'est vrai, et c'est un mouvement de fond qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années, mais qui est nettement accéléré depuis 2018-2020. C'est une prise de conscience écologique avec un contexte économique aussi, puisque la nouvelle génération aujourd'hui n'a plus du tout de complexe à porter, du déjà porté. Et au contraire, c'est devenu un marqueur de style. Et c'est vrai qu'autrefois, c'est le truc de mémé, c'est devenu désirable. Voilà, la pièce désirable de mémé. La grande différence, c'est que c'est plus du tout niche, c'est rentré dans le grand public aujourd'hui de vintage.
Justement, le public, il a changé ces dernières années. Est-ce qu'on n'est pas passé d'un public assez âgé qui recherchait des souvenirs des années de leur enfance à un public plus jeune?
C'est vrai, vous avez raison. Le public a changé. On avait affaire il y a quelques années à des vrais collectionneurs, des connaisseurs très pointus. Et aujourd'hui, on rassemble plutôt trois générations en même temps. Les jeunes qui découvrent et qui finent des nouvelles pièces. Et puis des trentenaires, des quarantenaires qui cherchent du luxe accessible et durable. Et des passionnés historiques qui connaissent et qui connaissent bien les marques sur le bout des doigts. Et c'est devenu beaucoup plus mix aujourd'hui. On voit beaucoup plus de jeunes arriver dans les salons du vintage. C'est un public vraiment beaucoup plus large. Le vintage aujourd'hui, on peut dire qu'il a plus d'étiquettes.
Et c'est quoi les objets ou les vêtements les plus recherchés en ce moment?
Alors aujourd'hui, c'est surtout la maroquinerie. La maroquinerie, puisque avec les accessoires, des grandes maisons qui restent stars, donc Chanel, Dior, Hermès. Et puis évidemment, on a ouvert au salon du vintage une partie horlogerie avec les montres comme Rolex, et ça, c'est sans désemplir pas. C'est vrai que aujourd'hui, on porte des années 80-90, des denims de belle qualité aussi, des cuirs, et puis des objets design, de décoration, des luminaires, du mobilier. Les gens veulent pas seulement s'habiller vintage, ils veulent vivre dedans.
Et vous proposez plusieurs salons du vintage cette année. Il y aura de plus en plus de villes.
Ah oui, il y a de plus en plus de villes. Et puis, comme vous avez pu vous en apercevoir, on a ouvert également les États-Unis avec un premier salon à Miami l'année dernière qui a plutôt bien fonctionné. Et on va développer un petit peu toute la partie US, effectivement, avec un développement du côté de la Floride en particulier. Donc voilà, qui sont vraiment à la recherche de beaux objets, des objets qui ont du vécu, des objets du vécu européen également. Donc c'est devenu un vrai réflexe culturel aujourd'hui, le vintage.
On fait comment si on veut s'inscrire en tant que professionnel ou même particulier au salon du vintage?
Alors c'est assez simple, on va sur notre site salondu-vintage.com, on va retrouver toutes les informations, les contacts, et puis on commence toujours par nous envoyer des photos des objets qu'on propose, puisque nous, il y a une vraie sélection qui se fait à l'entrée. On veut vraiment proposer la crème de la crème du vintage en mode et en mobilier vintage.
Oui, parce que je suppose que c'est pas forcément les mêmes objets qu'on peut retrouver sur des plateformes comme Vinted, eBay, etc.
Non, nous, on va pas du tout proposer de fast fashion avec les grandes enseignes qu'on connaît aujourd'hui et qu'on va pas citer. On va vraiment être sur du premium.
D'accord. Et vous pensez que c'est un phénomène qui va s'accélérer ou c'est juste en ce moment un phénomène de mode?
Ah oui, non, moi je suis catégorique, c'est un changement durable. Une mode, ça se passe. Et là, ce qu'on observe au salon du vintage en particulier, c'est une transformation profonde des rapports à l'objet. Les gens réfléchissent vraiment avant d'acheter, privilégient de qualité à la quantité. Ils acceptent vraiment d'avoir chez eux ou sur eux des objets qui ont du vécu. C'est vraiment devenu un vrai réflexe, la seconde main. Et c'est pas un choix par défaut, c'est un choix revendiqué. Donc c'est pas simplement une tendance, c'est une nouvelle façon de consommer. Et je pense que ça va le rester.
Merci Laurent Journeau, fondateur du Salon du Vintage.
Merci Didier.
Le vintage touche autant notre mémoire que nos émotions. Pourquoi certains objets nous attirent sans que l'on sache vraiment l'expliquer? Pourquoi une vieille montre, un vinyle qui craque, une veste vintage ou une machine à écrire semble parfois raconter une histoire avant même qu'on les touche? Ou peut-être un petit Manu. Vintage, pourquoi il me touche?
Je n'en sais rien,
Dans un monde où tout s'accélère et se remplace, certains objets traversent le temps et semblent conserver une empreinte particulière. Ponari nous invite à explorer ce lien étrange et profond entre le vintage, les souvenirs et même l'âme des objets. Et retrouver la chronique bien-être
De Ponari, et puis je peux vous dire qu'elle assure, elle ne voit, on est rempli d'émotions, les yeux, on est capté sur elle.
Posez-vous la question, de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour être bien avec moi-même?
Et même des fois on a failli pleurer d'émotions.
La chronique bien-être de Ponari.
On dit souvent que les objets sont inanimés, et pourtant certains semblent porter quelque chose de vivant. Un vieux miroir patiné, une veste des années 70, une machine à écrire oubliée, comme tu disais, ouais. Un vinyle qui craque doucement avant la musique. Ces objets ne sont pas seulement anciens, ils racontent une histoire. Ils traversent le temps, ils gardent la trace des mains qui les ont touchés, des maisons qu'ils ont habitées, des émotions qu'ils ont accompagnées. Et c'est peut-être ça finalement le pouvoir du vintage, nous reconnecter à une mémoire sensible. Dans un monde où tout va vite, et oui, où tout se remplace, le vintage nous invite à ralentir, à regarder autrement, à choisir un objet, non pas pour sa performance, mais pour ce qu'il nous fait ressentir. Un objet vintage a souvent des défauts, une rayure, une couture usée, une couleur passée, mais ce sont justement ces imperfections qui le rendent humain. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à désencombrer leur intérieur, mais peut-être que le vrai bien-être ne consiste pas à vivre avec moins, peut-être qu'il consiste à vivre avec des objets qui ont du sens. Parce qu'un objet chargé d'histoire peut devenir un ancrage émotionnel, une présence rassurante, un souvenir et parfois même une transmission. Certaines personnes parlent d'énergie des lieux, d'autres parlent de mémoire des matières, et même sans entrer dans le spirituel, nous ressentons tous qu'il existe des objets qui dégagent quelque chose. Comme si le temps avait laissé une empreinte invisible. Alors, la prochaine fois que vous chinerez un meuble, un bijou ou un vêtement vintage, posez-vous cette question : pourquoi cet objet m'appelle-t-il ? Peut-être parce qu'au fond, nous ne cherchons pas seulement des choses belles, nous cherchons des choses qui ont une âme.
Wow. Eh ben merci Ponari.
Et c'est fou parce que, oh là là, moi aussi, oh là là, on est ouf, que d'émotion. Mais c'est dingue, comme quoi tu fais bien de le préciser, Ponari, parce que c'est vrai que quand on voit des choses, et tu parlais de chiner, bon, je pensais aux brocantes, c'est pas spécialement ce qu'on trouve, ce qu'on voit, mais c'est peut-être l'histoire. Pourquoi il est là,
et ça... Derrière un objet, il y a toujours une histoire.
Ouais, voilà, et ce que, comme tu dis très bien, on est, oh là là, d'admiration.
Parce que petit Manu, d'ailleurs, il est très attaché à quelque chose depuis 20 ans, qui est, quelque chose, c'est plutôt un vêtement, son slip, qui n'a jamais changé.
Ah si,
Vincent t'as le même.
Les sous-vêtements, on les change parce qu'on
aux enchères.
Ça, c'est de la taquinerie.
Non, tu peux pas t'en séparer.
Mais si.
Tu m'as dit, j'ai toujours le même.
Non. Mais ça, c'est l'imagination de
l'idée. Non, t'es sûr.
Mais là, tu as ton vieux Marcel, c'est bien.
Non, je change régulièrement. Pour revenir,
il fait tellement chaud.
Il me taquine, ce qui est formidable. Parce que, comme tu dis si bien, parce qu'il y a un objet, et c'est vrai, on a tendance à, ce que je voulais dire, à pas te dire con, d'où ça vient, de tel temps.
Exactement.
Et ta chronique est très essentielle.
Donc à tous ceux qui vont chez les antiquaires, les brocantes, voilà, qui font les vide-greniers, faites attention aussi à l'énergie que porte l'objet.
Oh là là.
Donc chercher l'histoire.
Et tu vois, pendant qu'il me taquinait, ben, franchement, Ponari, vraiment tes petites antennes, vraiment t'es un porte-bonheur. Hein, on t'écoutait religieusement. Et...
Ah bah tu vas devoir rester à côté de Manu si t'es son porte-bonheur.
Mais
mince.
Non, mais parce que dans tout ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est du vrai. Elle dit avec une...
C'est du vrai.
Bah oui, mais raconte pas n'importe quoi non plus.
Elle dit avec une belle philosophie empathie. Et c'est vrai, tout ce qu'on pense pas, elle le dit, c'est ouh, on peut qu'on tombe en admiration.
Ouais. Eh ben merci Ponari.
Merci Manu. Bravo. Alors là, je me tue.
Et vous, est-ce que vous achetez du vintage, Kevin?
Dans mes souvenirs, non.
Non, bon, Marie-Christine, t'achètes du vintage, toi?
Non, j'achète pas de vintage.
Bon.
Non, enfin, ça m'arrive d'acheter des trucs d'occasion.
Jamais des trucs rétro, l'électroménager des années 60.
Ah non, pas du tout.
Non, pas du tout. Bon, une
vieille poupée. Non, parce que moi j'étais dans... Quand j'étais jeune, j'étais donc dans des meubles anciens. J'en ai encore. Et donc, j'en achète plus. Maintenant, j'achète du moderne. Voilà.
D'accord. Bon, petit Manu.
Bah, non, pas spécialement. Je suis un peu comme mes collègues.
Et Ponari, t'es attiré par le vintage?
Ah oui, moi, j'ai un t-shirt qui dit « Je ne suis pas vieille ». Je suis vintage.
Ah carrément. Yo, tu devras un succès. Yo. Et les gens se recrutent pas, et ça va.
Bon, moi, j'aime bien rigoler, moi.
Ah bon, ça, c'est...
Là, récemment, je me suis acheté un lecteur CD audio avec la radio.
Ah bah, vintage.
Complètement vintage.
Ah bah, voilà.
Donc,
ah bah,
c'est bien. C'est...
Oui, je suis reparti dans une nostalgie aussi.
Voilà, moi, c'est des petites peluches des années 80 que j'achète. Les kikis, vous rappelez les petits kikis?
Ah oui,
le singe.
Les kikis et les mille pattes.
Ah oui.
Tu rappelles pas les mille pattes?
Ah tout à fait.
Toi, t'avais des vrais mille pattes chez toi. Mais là, moi, c'était les peluches.
Non,
pour le prochain anniversaire, on t'achètera.
Non, moi, quand j'étais plus petit, j'avais kiki. Je me rappelle aussi.
Alors,
kiki.
Il y en a un que je veux bien, mais il coûte 100 euros, la petite peluche.
Ah oui. 100 euros. Ah, carrément.
C'est kiki à la plage, kiki qui fait quoi?
Non, c'était kiki comme un peu mouton, kiki rainbow, je sais plus comment il s'appelle. Comme de la laine de mouton.
Non, mais moi j'avais le kiki, je me rappelle. Mais...
Et ça, sur les plateformes comme Vinted, etc., eBay, ça vaut très cher. Quoi. Au lieu de 20 euros.
C'est collector,
C'est collector. Tu le payes 100 euros.
Ah oui.
Manu, tu me l'achètes pour mon anniversaire?
Bon, bah, je me tue en cours.
On va se cotiser.
On va mettre des anciens billets. Si ça marche.
Vintage.
Ça peut peut-être marcher.
C'est original, faut connaître.
Et nous ouvrons notre page culture pop et musicale. Commençons par de la musique. Le terme vintage en musique évoque des morceaux ou des enregistrements authentiques d'une époque passée avec un charme et une esthétique d'origine. C'est différent de la musique rétro qui, elle, fait référence à des sons moderne qui imite ou s'inspire des styles du passé en gardant souvent une production actuelle. Et rien à voir, ou plutôt rien à entendre, avec une musique démodée qui a une nuance négative, une musique jugée dépassée ou plus à la mode, même si elle vient du passé ou non. Place à la musique vintage avec des chansons qui traversent les générations et sentent bon les années folles, les cabarets parisiens et les grands music halls. On pense notamment à Charles Trenet qui a chanté des titres comme La Mer ou encore Il y a de la joie, Josephine Baker avec sa chanson J'ai deux amours ou encore Maurice Chevalier et ses chansons comme Ça s'est passé un dimanche ou encore Marche de Médine Montant. Et quelles sont les autres chansons cultes de la musique vintage? Découvrons-les dans le quiz de
Kevin.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz, 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 ah, quiz. Attends. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu. Je vais me porter sur un truc.
Mais sautera.
Et je vous propose une belle remontée dans le temps, dans les années 40 et 50, avec la musique qu'écoutaient vos parents ou même vos grands-parents, avec des titres inspirés de la compilation French Vintage sortie en 2011, notamment cette première chanson interprétée par une chanteuse qui nous a quittés il y a plus de 50 ans maintenant. Elle était chanteuse, danseuse, actrice et meneuse de revue. Est-ce que vous l'avez reconnue?
Je pense peut-être à Régine.
Comment?
Josephine Baker.
Oui,
Josephine Baker.
Je crois qu'elle avait beaucoup d'enfants, je crois.
Oui, c'est ça. Est-ce que vous saviez qu'elle s'appelait Josephine McDonald?
Non.
Ah bah là, non, évidemment. Bah, voilà.
Elle s'appelait Freda Josephine McDonald.
D'accord. Le regard.
Mais on l'a connue davantage au nom de Josephine Baker. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé il y a tout juste... Enfin, ça va faire 5 ans au mois de novembre.
Elle n'a pas été au Panthéon?
Oui, exactement, exactement, Marie-Christine.
Ah, bien.
Elle est devenue la 6e femme et première femme noire à rejoindre le Panthéon.
Parce qu'à l'époque, il y avait du racisme hein, quand même à l'époque.
Après Simone Veil, effectivement.
Voilà, exactement. Et cette chanson, ça s'intitule à votre avis?
J'ai deux amours.
J'ai deux amours.
Chanson interprétée par Josephine Baker est sortie en 1930 avec des paroles de Géo Cogé et d'Henri Varna sur une musique de Vincent Scotto. On passe maintenant à une autre chanteuse française.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean.
Saint-Jean, oui.
C'est pas prêt à chier.
Non, pas du tout.
À Saint-Jean.
Alors, on va écouter le refrain d'abord.
Oui, on va écouter. Très bon.
Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers.
Si Manu a dit David Guetta, mais je pense que c'est
ça. Rien à voir. Mon amour à Saint-Jean.
Mon amant de Saint-Jean.
Et même dernièrement, enfin, il y a eu des petits problèmes. Il y a eu Patrick Bruel avec Charles Aznavour qui avait fait un duo musical. Oui,
Patrick Bruel avait repris cette chanson.
Tout à fait, une reprise.
Mais chanté. L'interprète originale, vous savez de qui il s'agit? Elle s'appelle Lucienne Delisle.
Non.
Fallait savoir.
Elle est née en 1913 et morte en 1962. Elle avait 48 ans. Et cette chanson, Mon amour de Saint-Jean, est sortie en 1942, année de naissance de Michel Drucker d'ailleurs, et même d'Eddie Mitchell.
C'est surtout pendant la guerre.
Bah voilà. Oui, quand même.
Et cette chanson reste à ce jour un monument intemporel de la chanson populaire française. On passe maintenant à un acteur et chanteur.
C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie.
Franck Ferdinandel.
Il s'appelle Fernand Cotentin.
Cotentin. Oui. Ah, c'est peut-être après son vrai prénom. Après, c'était un pseudonyme.
Allez, écoutons Félicie aussi.
Oh, si. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loups boutonnent. Félicie,
oh si.
Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles. Félicie,
oh si.
Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche. Félicie,
oh si.
Afin de séduire la petite chatte.
Est-ce que vous savez c'est qui Félicie d'ailleurs?
Ah, très bonne.
Ça a dû le ciné?
Bah c'était sa femme en fait.
Ah,
sa femme qui s'appelait Henriette Félicie.
Ah bah voilà, On se manque. Ah, tu nous apprends.
C'est une sorte de déclaration d'amour, en fait.
Ah, bah, oui, ah oui, chanson,
la plus simple.
Et vous savez en quelle année elle est sortie? À mon avis, tu ne devais pas être née, Marie-Christine.
Il n'était pas poétique.
Bah non, mais il était direct, hein, alors là.
Bah, Petit Manu qui aime bien remettre les choses vintage au goût du jour. Et bah, pour la version 2026, Petit Manu propose Ponari aussi.
Alors, je veux vous dire, je pourrais, mais j'aurais pas le temps, le succès.
En mode slam.
J'aurais pas le succès de. Non, je me permettrai pas.
Ou sinon, Stani aussi.
Ah, bonjour, bonjour Stani. On espère qu'elle va bien. Coucou Amika.
Ou encore Marie-Christine aussi.
Non, mais j'arrive.
J'arrive pas.
J'aurais pas son style. En revanche,
il est trop jeune pour moi.
Il y a un film que j'ai beaucoup aimé, La Vache et le Prisonnier, avec Marguerite sa vache. Vous avez, alors là, c'est un film mythique. Vous savez, qui, enfin, c'est pas le rapport, mais c'est bons films, La Vache et le Prisonnier, je vous conseille de regarder.
C'est un acteur émouvant.
Ah, complètement. Mais là, ce que tu nous apprends, on est reconnaissant.
Merci.
Alors là.
Et on termine avec un autre chanteur français.
Charles Trenet.
Charles Trenet, bien sûr. Charles Trenet, grand artiste français, hein, né en 1913 et mort en 2001, en février 2001. Et cette chanson intitulée La Mer, elle a été composée et interprétée par Charles Trenet. Mais en fait, c'est lorsqu'il s'était rendu en train de Montpellier à Perpignan que l'inspiration de cette chanson lui est venue. En fait, il observait les paysages qui longeaient souvent la côte méditerranéenne. Et il avait écrit cette chanson en à peine 20 minutes. Je vous propose qu'on écoute la chanson La Mer.
La mer, les a bercés, le long des golfes clairs, et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie, la mer. Qu'on va danser,
on va danser,
le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer.
La mer.
Manu connaît que le mot la mer.
Non, c'est déjà bien. Non, mais
c'est déjà pas mal.
On essaye de chanter comme ça, mais on met un peu d'ambiance.
Eh bien, vous vouliez du vintage. J'espère que vous avez été servi. Merci à tous.
Mais, eh bien, merci Kevin.
Merci Kevin. Donc,
remarque quand même, c'est vrai que comme par rapport à l'année, c'est un peu complètement ancien. Et comme tu disais très bien, Ponari, c'est pas la même époque d'aujourd'hui auquel on vit, c'est le jour et la nuit. On a l'impression qu'il y avait une certaine tranquillité, stabilité. C'est vrai, mais c'est. Bon, enfin, après, chacun son époque, son temps.
Bah, les gens, ils allaient danser, mais ils dansaient en couple.
Ah bah, puis, complètement, il y avait les balles aussi.
Il y avait les balles, oui, mais
pas. Non, mais à ce moment-là, c'est vrai, déjà, il faut le reconnaître, quoi.
Eh ben, on va écouter un titre en entier, Kevin.
Eh bien, moi, je vous propose d'écouter donc Fernandel, Félicie aussi.
C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loups boutonnent, Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Félicie aussi. Afin de séduire la petite chatte, je l'emmenais dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je paris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, Félicie aussi. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille. Elle ici, aussi. Je m'offris une giblotte, elle embaumait l'échalote. Elle ici, aussi. Puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire était blette. Elle ici, aussi. La Ramon lui tournant la tête, elle murmura quand tu voudras. Alors j'emmenai ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réuni. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière, félicite. Oh si, je me lavais les mains bien vite, lavabo avait une fuite, félicite. Oh si, sous l'armoire il y avait une cale, car elle était toute bancale, félicite. Oh si, il y avait un fauteuil en plus, mais il était rempli de puces, félicite. Oh si. Et des draps de toile molle me chatouillaient les guiboles, Félicie. Oh, si.
Fernandelle, Félicie aussi.
On termine cette émission par de la culture pop, ancêtre du lecteur MP3, le baladeur cassette. Hein, certains ont certainement connu, je pense, tout le monde. En fait.
Ah bah oui, oui. Attends, oui, voilà, oui, c'est plus tout le monde.
Eh ben, est désormais entré dans le sanctuaire vintage de la pop culture. Le tout premier baladeur, le Sony Walkman TPS L2, a su se faire adopter par le monde entier après un premier démarrage timide depuis plus de 40 ans. Si le Walkman reste un objet vintage, c'est qu'il renvoie à une nostalgie populaire, car son utilisation, que ce soit avec n'importe quel type et marque de baladeur, est étendue au monde entier et qu'il a su traverser son époque avec brio. En effet, après la cassette avec la radio, le baladeur est passé du mini CD au CD et du MP3 au streaming. Dans sa chronique pop, Eric revient sur le passé du baladeur devenu aujourd'hui un objet vintage. Retrouvez la nouvelle chronique d'Eric.
Ah, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique autour de la culture pop.
Une culture pop, jazz, pop, boum, 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 boum.
L'arrivée de nouvelles figurines pop, plus connues sous le nom de Funko Pop. Vous savez ces figurines en vinyle avec une grosse tête et un petit corps?
Il va nous aider, Eric. Oh là 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 là. Attends.
Nous avons tous eu presque un baladeur radio-cassette dans les années 80 et 90. Le plus célèbre de ces appareils collecteurs est devenu vintage avec le temps. Walkman, sorti tout droit de la célèbre marque Sony, fait vibrer son nom dans nos cœurs et sonne depuis 1979 comme une signature musicale appartenant au baladeur à cassette. Fêtant ses 40 ans en 2019, le Walkman avait comme accessoire incontournable le casque audio mais aussi la cassette audio. La volonté de Sony, c'est que ce baladeur cassette, sorti fraîchement de leur usine, soit abordable par son prix mais aussi utilisé par un très grand nombre de consommateurs. La stratégie était donc de le concevoir avec des composants très peu coûteux. Il faut savoir que les débuts du Walkman n'étaient pas si merveilleux. Pour pallier à cela, Sony incite les célébrités à les utiliser devant le grand public, envoie des personnes dans toute une ville, celle de Tokyo, équipées de Walkman, mettre à disposition dans des bus touristiques ces appareils afin d'être utilisés par les usagers. En une dizaine d'années, on pouvait compter 50 millions de Walkman vendus à l'international. En France, l'appareil n'avait pas de nombre à proprement parler à cette époque. La délégation générale de la langue française et aux langues de France, donc chargée d'animer et de coordonner la politique linguistique de l'État en l'orientant dans un sens favorable au maintien de la cohésion sociale et la prise en compte de la diversité de notre société, a tranché pour le mot « baladeur » pour anticiper la fabrication de l'appareil par d'autres marques, Walkman étant le nom déposé par Sony. Cela empêche que le mot « Walkman » a quasiment trouver sa place dans le vocabulaire de tous les pays et désigne n'importe quel lecteur radio cassette portable. Derrière l'histoire de Walkman, il y a l'histoire de trois personnes. D'abord, il y a un certain Akio Morita. Ce monsieur fut le directeur de Sony à l'époque de la création du Walkman. C'est aussi le cofondateur de la marque Sony avec Masaru Iibuka. Celui-ci est la personne qui a lancé la machine car il souhaitait, personnellement, un appareil lecteur-enregistreur de petite taille. Sony s'exécuta et créa un appareil dans un premier temps faisant office de lecteur qui deviendra plus tard le Walkman. Avant de vous citer la troisième personne, il est important de vous rappeler que derrière l'invention du Walkman se cache une guerre de brevets d'invention. Andrea Pavel, inventeur allemand, avait créé un appareil ressemblant beaucoup au Walkman en 1977, soit 2 ans avant la commercialisation du baladeur de chez Sony. D'après un article d'Alexandre Billot datant de 2 juillet 2019 pour le site CNET, en 2004, après plus de 20 ans de bataille judiciaire, Andrea Pavel, l'inventeur alors âgé de 59 ans, acceptait un accord avec Sony pour suspendre toutes les procédures judiciaires. Si le contrat signé par les deux parties demeurait confidentiel, des sources proches du dossier évoquaient à l'époque un deal à plusieurs millions de dollars. Amis de la pop culture, vous l'avez compris, le vintage n'est pas qu'une histoire de bonne affaire ou une tendance à la mode. Le vintage, c'est la valeur pop coup de cœur du nostalgique, connaissant sa valeur sûre comme le Walkman. En attendant, portez-vous bien.
Merci Eric. Et on continue cette page culture sur le thème du vintage. Selon une étude du CNC, donc Petit Manu...
Au centre international du cinéma...
National du cinéma. Plus de 70% des spectateurs de moins de 35 ans déclarent être attirés par des œuvres qui revisitent des décennies passées, notamment les années 80 et 90. Au théâtre aussi, cette tendance s'impose de plus en plus. Les créations qui jouent avec les codes du passé, boys band, stars, séduisent un public large. C'est dans ce contexte que s'inscrit Vintage People, spectacle sur un boys band des années 90.
Et nous avons les Vintage People dans nos studios. Bonjour. Oui,
bonjour. Oui,
bonjour. Bonjour.
Vintage People qui en français se dit les gens d'avant.
Ah, les gens d'avant. Donc Frédéric Strouk, Pascal Rocher et Olivier Denizet, vous jouez les Vintage People.
Absolument.
Alors pourquoi avoir choisi de faire revenir un boys band des années 90?
Bah en fait, on s'est dit qu'on allait le faire vivre avant de le faire revivre, oui. Puisque en gros, ce boys band n'a jamais véritablement existé. On raconte l'histoire de ce groupe de garçons chanteurs un peu improbables, déjà dans les années 90, qui va tenter de faire son grand retour d'une période de triomphe qu'il n'a jamais connue.
Alors les Vintage People, c'est parodique, nostalgique?
Un petit peu tout les ça, deux, c'est ouais. Drôle, les c'est deux. Émouvant, Pascal.
Bah les deux, oui, effectivement, c'est parodique et nostalgique. Oui, ça va rappeler quand même les grandes heures des boys bands, notamment un qui nous a piqué notre place, et ça passera pas, ça passera jamais.
Il y a un moment, il faut dire les choses.
Ouais, je pense qu'il faut régler le problème de l'injustice par rapport à ça.
D'accord.
Et non, mais ce qui est très nostalgique, c'est que c'était quand même une période relativement joyeuse. Voilà, il y avait quelque chose avec un décalage humoristique, parce que quand on voit ça maintenant, 30 ans après, on se dit mais pourquoi on a aimé ça? Alors qu'en fait, on a aimé ça parce que c'était
joyeux.
Joyeux.
Et gay aussi.
Gay à plus d'un titre. Donc voilà. Et on est en pleine forme.
Les années 90, c'était aussi l'explosion de la visibilité LGBT. C'était l'explosion du Marais. Ça représentait énormément, juste pour ces jeunes hommes un peu, pas en perdition, mais en tout cas en recherche d'identité que nous étions, n'est-ce pas? Car on parle de nous aussi dans ce spectacle.
Alors moi je parle pas de moi hein, personnellement, mais je parle d'un de ces personnages en fait qui s'appelle Brandon. À l'époque il fallait avoir un peu des noms à consonance américaine.
Oui.
Et voilà, donc on a Tyler et on a
Steven
bien sûr. Et voilà, on voulait correspondre à une sorte de mode. Et puis on nous a un peu éjecté de façon complètement injuste parce qu'on avait des chansons un peu engagées par rapport à l'époque.
Et puis surtout des physiques.
Et on avait des physiques très engagées.
Très, très chaud dans le studio, je crois que tout le monde peut le dire.
Ça, c'est l'histoire du spectacle. Hein. Oui, on ne parlait pas de boys band des années 90.
Non, bien sûr. Non. On avait des tablettes de chocolat et le chocolat a fondu.
Ah voilà. Voilà. Mais alors, les chansons du spectacle, c'est des reprises ou des créations originales?
Les deux, mon général.
Les deux.
Oui. Il y a une forte partie de... je crois que c'est à peu près équivalent maintenant. Hein. On a des créations pures par la musique. Et puis on a d'autre part des chansons réécrites. Je préfère dire ça plutôt que parodie, puisque ça re-raconte autre chose par rapport à ce qu'on connaît de la chanson.
Il y a beaucoup d'airs connus.
Bah, est-ce qu'on peut avoir un extrait?
Ah bah oui.
Alors d'une création pour le
d'une
coup.
D'une création, le premier numéro du spectacle, qui est donc le grand tube des Vintage People et qui s'appelle
Choisis un daddy.
Ça tombe bien, c'est ce qu'on est. Et hop la chorégraphie. Où ça transpire dans le studio. On mouille les t-shirts. Oh, ils sont trempés là. Toi qui tiens tant à avoir une belle histoire, plus qu'un amant, plus qu'un plan d'un soir. Toi qui ne crois plus en rien, donne-moi la main et tu verras le chemin. Si tu bois du noir, il te reste un espoir. Prends ton caddie et puis
choisis un daddy.
Il y a tant de daddy
dans du gentil.
Si tu viens chez daddy,
paradis, c'est parti.
T'as le paradis pour paradis.
Sape les applis et puis
choisis un dadi.
T'en fous si dadi est
tendu ou dandy.
Les sorties en boîte, c'est mieux l'après-midi. Dis oui.
J't'emmène à l'opéra,
j't'emmène à l'apéro, j't'emmène danser un slow et au lit.
Moi j'aime les mélodies, mais ça me va aussi si t'aimes Big Flo et au lit.
Quel que soit tes goûts, je suis ton meilleur coup.
Fais pas ta Lady Di et
choisis un daddy.
Si tu t'en es trop pris,
que dans ton Audi.
Prépare-toi à vivre ta plus belle love story.
Oublie ton petit ami et
choisis un daddy.
Parce qu'il a survécu au pire
des pandémies.
Alors bien plus belle sera ta vie, vas-y, choisis.
Bravo, bravo. Alors,
j'ai pas de retour.
Donc pour Big Bang, bah il y a un boys band qui nous a laissé un message et c'est les vrais.
J'ai squat dans Big Bang.
Oh waouh, c'est notre pote
dans Big Bang.
Oui. Voilà, les G-Squad.
Ah oui.
Il y a quelques années, hein.
Oui, oui, j'imagine.
Voilà, parce qu'il y en a qui sont morts. Malheureusement, il y en a un qui est mort, je crois.
Je crois, il me semble. C'était pas Andrew.
C'est Andrew,
c'est Andrew
ouais.
Qui nous a quittés, oui.
D'ailleurs, justement, est-ce que vous avez eu le retour de certains boys band?
Bah, alors, pas encore, parce que notre carrière n'a pas été la même que la leur.
Moi, je dois dire que j'ai croisé Andrew dans un sauna qui était fort sympathique.
Oui.
Mais c'est à peu près tout.
Moi, je l'avais vu dans un bar à l'époque, il m'a demandé si je voulais du gel. Bah, il se peignait les cheveux avec du gel.
Ah oui, bien sûr.
Ce genre de gel, oui.
Voilà.
Non, j'avais beaucoup apprécié notre rencontre.
Voilà, d'accord.
Ouais. Mais je pense que c'est quand même compliqué quand on connaît la célébrité. Et c'est pour ça que nous, on est plutôt...
On est tranquille.
On est tranquille, on
au
est
détendu. Au niveau célébrité.
Mais parce que voilà, pour certains, ça devient compliqué à gérer après.
Quand ça arrive trop vite, nous, on a la chance d'avoir pris le temps.
Voilà.
Voilà, et puis c'est pas encore fait.
Les chansons, je pense que c'est plus facile pour vous, car vous avez tous une très belle voix.
Oui.
Les chorégraphies, c'est peut-être moins votre métier. Comment vous les avez élaborées et ensuite sur scène?
Alors, elles sont très élaborées, mais elles sont un peu adaptées à nos moyens. C'est-à-dire que on bouge, il y a du décalage un petit peu humoristique sur les mouvements parce que on fait ce qu'on peut.
Bah parle pour toi.
Mais oui, non, c'est vrai. Moi, je galère plus que les autres. Mais en tout cas, voilà, on le fait avec le cœur et c'est ça le plus important. On fait une évocation de ce que pouvait être effectivement ce type de chorégraphie.
Une évocation, dis donc, je te rappelle quand même que un certain groupe qu'on ne citera pas nous a tout piqué, y compris les chorégraphies.
C'est vrai, ouais.
Et non c'était pas G-Squad.
On, des beaux gosses, entre guillemets. Ouais,
Bellâtre.
Voilà, qui nous ont tout piqué, notre chorégraphie, nos mélodies.
Nos chansons.
Et pour pas que ça se voit, ils l'ont inversé en plus. Ils ont inversé la mélodie. Donc,
d'accord. Bah, ouais. Au moins, vous faites pas comme Maria Carré, une illusion de bouger sur scène avec les danseurs à côté. Vous bougez vraiment.
Nous, on bouge encore.
Malheureusement pour le public, nous bougeons.
Puis nous, on n'a pas les moyen de se payer des danseurs, tout simplement. Donc,
parce que vous êtes danseur.
Oui, on peut dire ça.
Ouais, enfin, on peut le dire.
On peut le dire.
Ça s'appelle
le faire, je ne sais pas, mais on peut le dire.
Alors, il y a Brandon, Tyler, Steven.
Ouais. Bravo, oui, très bien.
Comment vous les avez élaborés, ces personnages? C'est un mix de boys band qui existe?
Non, je pense que c'est un petit peu une espèce de suramplification de ce que nous sommes un peu au départ. On a travaillé sur
nous. On est parti de nous.
Ce sont des personnages, mais on a évidemment des caractères. C'est un personnage construit. Chacun a une personnalité très différente.
On est parti de nous. Brandon, par exemple, lui, ce serait plutôt quelqu'un qui voulait être chanteur lyrique à la base.
Voilà.
C'est un peu notre intello. C'est un peu notre intello. Moi, je suis le doyen, je suis le plus vieux, j'en prends plein la gueule.
Oh, ouais, pas ouais. Que, t'es pas le seul, hein.
C'est un peu notre MC, mais qui a du mal à faire son boulot parce que il est quand même très,
Il a deux troublions qui l'emmerdent.
Ouais, voilà.
Voilà, et puis, Tyler, lui, il était branché comédie musicale à la base. Il aurait adoré faire une comédie musicale. D'ailleurs, peut-être qu'il va en faire un petit bout dans le spectacle.
On ne sait pas.
On sait pas.
Ouais, ouais, ouais.
Et quels étaient vos boys bands préférés il y a 30 ans quand vous étiez pas né?
Ah ben moi j'aimais bien les To Be Free avant qu'il y ait une
famille. Ah, faut pas le dire. On coupera ça au montage. Non, les frères Jacques. Moi j'aimais beaucoup les frères Jacques.
Ah oui. Oui, on peut dire que c'est un boys band. Bon,
c'est vrai.
Puis non, Olivier.
Non, mais moi j'ai effectivement j'écoutais beaucoup les boys bands de l'époque.
Les compagnons de la chanson.
Voilà, les compagnons de la chanson, oui. J'adorais ça. J'adorais « Les cloches sonnent, sonnent » et je dansais là-dessus.
C'est un peu un boys band, en fait.
Absolument.
Ça a toujours existé. Hein. Pourquoi on a fait ces anglicismes ridicules?
Mais l'anglicisme, justement, boys band, ça fait plutôt référence au groupe de garçons des années 90, beaux gosses musclés avec des chorégraphies.
C'est pour ça que nous, on a détourné la formule. On est un dad's band.
Oui, ben pourquoi pas. Pourquoi pas.
C'est nouveau.
Et Vintage People parle aussi de la chute de la notoriété des boys band vers les années 2000.
Ouais, les pauvres. Ça a été vachement dur.
Il y en a qui ont mal tourné quand même.
Non, et puis ils ont une carrière assez courte quand même, faisant ce qu'il y a. Enfin, ça a vraiment été éclair comme période.
Et puis, difficile à s'en relever.
Et quand on joue beaucoup sur le physique, après c'est plus dur de durer.
Non, pas pour moi.
Ah oui, c'est vrai. Toi, t'as toujours été beau.
Parce que vous parlez du vieillissement, tout le monde vieillit.
Exactement. Et justement, c'est l'un des sujets qui les plus importants du spectacle, c'est cette volonté de ne pas disparaître sous prétexte qu'on avance en âge.
Voilà.
Surtout dans la communauté, comment on appelle ça, communauté LGBTQIA.
Ah non, c'est compliqué. LGBTQIP2SAA.
Ah, ça a changé.
C'est long. Voilà. Ça n'arrête pas de changer.
D'accord.
La communauté de l'alphabet.
Voilà.
Ouais, y aura toutes les lettres bientôt.
C'est ça.
Voilà.
Mais en double aussi, c'est pour ça que c'est très long.
Ouais. Voilà, et ça c'est ce genre de choses qui est un petit peu parfois difficile à comprendre pour les gens comme nous qui se seniorisent un petit peu.
On essaye de s'adapter, on essaye de communiquer avec les nouvelles générations.
Voilà, et c'est pas toujours
partie du sujet aussi du spectacle.
Et c'est pas toujours facile, effectivement. Ouais. Voilà, donc on essaye de pas devenir des vieux cons, mais c'est
dur.
Pas facile. Ouais.
Ouais, bon. Ouais. On va repartir en musique, en chanson.
Ah oui, d'accord.
Avec Dancing Queen, c'est ça?
Mais oui.
Queen, hein.
Alors attendez, bah, je King. Ne suis pas prêt.
Ah bah non.
Bah, Queen. Oui.
Je ne suis pas prêt du tout. Il faut que je fasse mes vocalises.
Ah alors vas-y Pascal.
Oh.
Il fait ça bien.
Et non, tu nous avais caché ça.
Alors là aussi, il y a une chorégraphie. Hein.
Bah, on va danser dans le studio alors.
Oui,
bah oui.
Puis tout le monde la connaît. D'apparence, je m'en balance. Je serai la reine du bal. Plus la peine d'être fine pour être une dancing queen. Alto diktat de tes kilos.
Reprends donc un peu d'aligo. Tu es triste comme l'hiver. Reprends du ragoût. Oublie un peu ta panse.
Arrête avec ton tour de taille. Goûte un peu mon gigot à l'ail. Tout miser sur ton physique, rien sur l'élégance, c'est gâcher toutes tes chances. Goûte mon côte de Provence et sois une dancing queen. Sans toi libre,
joue les Marilyn.
Si t'es libre,
c'est à ta porte
qu'on tambourine. Oh yeah. L'apparence, je m'en balance et je suis la reine du bal. Oh, plus la peine d'être fine pour être une dancing queen. Nos balances,
c'est les régimes de Bâle. Ni baleine,
ni sardine,
simplement dancing queen. Nous sommes des dancing queen.
Bravo!
Merci.
Et le public, justement, parce que le public des années 90, il comprend la référence, plus jeunes.
Oui, on essaie justement d'être accessible à tous.
Non, mais c'est complètement généraliste. C'est-à-dire que on parle de sujets qui sont des sujets qui concernent tout le monde, le vieillissement, l'adaptation, l'apparence, etc.
Et, la sexualité.
Et en fait,
l'éco-responsabilité,
qui est quand même un sujet très important et qui concerne aussi tout le monde.
Mais ça, c'est ton personnage.
Et oui, moi, je suis très concerné par ça. Et surtout, avec le décalage et avec l'humour qu'on y met, évidemment, on s'auto-parodie, en fait, on fait de l'autodérision, donc on s'adresse évidemment à toutes les générations.
Ça parlera beaucoup au quinca, et plus, et puis...
Au quincaillé,
si ça finit.
Oui, parce que ton axe, lui, c'est les petits commerces à Pascal.
Oui, Steven a été boulanger, parce qu'on a dû faire d'autres métiers, forcément, comme notre carrière a été un petit peu inexistante, on a dû faire d'autres métiers, donc moi j'ai été dans la boulangerie, ouais. J'en parle.
C'est pas un métier facile, moi je vous le dis. Non. Et surtout quand il y a une concurrence déloyale.
Oui,
avec aussi, la grande distribution. Ouais.
Ah ouais. Ouais.
Comment ça se passe? Vous improvisez ou vous laissez faire? Vous répondez en fonction de ce qui se passe dans les salles? J'en suis convaincu.
Ah, oui.
Je sais pas pourquoi. Je te demande de ça.
T'as compris, Manu.
Ah, bah, je demande. Je suis pas là. Mais vous avez une super pêche et je suis sûr que tous les jours vous ne devez pas vous embêter. Est-ce que je me trompe pas en disant cela? Qu'est-ce que t'en penses, Didier?
Oui, effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses écrites et beaucoup d'improvisation. Ça dépend parce qu'on joue aussi en interaction avec le public.
Ah, ouais, oui.
Et comme on s'amuse aussi entre nous, évidemment, de temps en temps, il y a des petites choses un peu improvisées. Oui.
C'est surtout ça la chose la plus importante à dire, c'est qu'avant tout, on est des amis, même si on s'envoie des pics, et on s'apprécie énormément, on s'amuse énormément tous les trois ensemble. Enfin, pas sur un.
Oui. Voilà. Bon, sur scène, on avait compris. Bah, merci aux Vintage People, Frédéric Strouk, Pascal Rocher et Olivier Denizet.
Merci Didier de nous avoir reçus.
Ils n'ont pas Denis Favre.
Quoique, c'est la même génération.
Oui, bonjour, Carcimor.
Voilà.
Ouais. Où est-ce qu'on peut vous voir alors sur scène en vrai?
Alors au point virgule. On sera pas déçus, hein, parce que
à Paris donc.
Ah oui, au 7 rue de Sainte-Croix de la Bretonnerie, absolument. Et c'est les dates. Alors les 7 et 24 juin à 21h15 et le 12 juin à 22h30.
Voilà. Bravo.
Et puis après on a le Stade de France, mais on n'a pas encore les dates précises.
D'accord.
Ouais.
Faut attendre que
on s'organise Céline Dion, avec tout ça. Avec oui. Céline.
Ouais. C'est-à-dire, genre, je l'ai eu au téléphone. Ouais. Alors, elle va peut-être me filer, nous filer, peut-être une de ces dates. C'est en négociation.
Oui. Puis je suis en train de voir avec Mylène si on peut pas faire sa première partie.
Oui. Bon, c'est cool.
Oui, voilà.
Ouais. Tu l'embrasses de ma part.
Mais bien sûr, elle sera ravie.
Et cette émission sur le vintage est déjà finie.
Oh non. Vite, oh là là. Mais on apprend des choses, hein.
Et merci encore aux Vintage People, hein, qui sont toujours là, Frédéric Strouk, Pascal Rocher et Olivier Denizet.
Voilà. Merci Didier de nous avoir reçus.
Merci beaucoup.
Et venez nombreux.
Voilà. Bravo et good luck.
Merci beaucoup.
Allez-y,
merci.
Gaiement, comme on peut dire. Voilà.
Si vous avez loupé le début de l'émission ou si vous voulez la réécouter, l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios dont vous retrouverez la liste sur
BigBangStation.fr.
On se quitte avec un proverbe, Kevin.
Et je vous propose le proverbe suivant. La nostalgie refait surface quand le présent n'est pas à la hauteur du passé.
Salut à toutes et à tous. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau thème.
Alors, les pom-pom-pom-boy. Voilà, au masculin. Voilà,
c'est ta mémoire, Kevin Tedge.
Oui, on connaît au féminin.
Pom-pom-boys.
Oui, pom-pom-boy. Mais au masculin, on va apprendre. Ça existe. Après, on va vous en parler.
Salut à toutes et à tous.
Bonne semaine. Tâchez de bien en profiter. Bonne semaine à tous. Finalement.
Ok, let's stop. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Vous êtes artisan, professionnel et entreprise du bâtiment? Alors ne manquez pas le 6e salon professionnel de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France. C'est devenu un incontournable. Réservez votre jeudi 4 juin prochain à partir de 10h. Rendez-vous à Saint-Ouen-l'Aumône pour une journée très riche en échanges. Transition énergétique, développement durable, l'accessibilité, facturation électronique et entreprises en difficulté. Venez aussi découvrir les innovations des partenaires. Informez-vous sur les aides, les formations, les qualifications et aussi les nouveaux marchés du bâtiment. L'entrée est gratuite. Il y a une restauration sur place et vous pourrez peut-être gagner à la tombola. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant en nous appelant au 01 34 32 33 66 ou bien via le QR code sur notre site internet capeb-grandecouronne.fr. Salon professionnel de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France, le 4 juin à Saint-Ouen-l'Aumône.
La Marine nationale fête ses 400 ans dans le Val d'Oise à l'Isle-Adam le samedi 6 juin. Vous pourrez dialoguer avec des militaires sur les métiers, sur les missions et également vous aurez des animations, diffusion de films et vous pourrez même embarquer à bord de la vedette Comar sur l'Oise et apprendre pourquoi pas à faire des nœuds marins, également mettre un casque en réalité virtuelle, des activités nautiques, des activités sportives. En un mot, venez rencontrer la Marine nationale le samedi 6 juin à l'Isle-Adam, 400 ans. Imaginez 1626-2026.